Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus, 103.1 à Nîmes et sur le 91 FM à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, et à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. Adulé par les uns, décrié par les autres, l'homéopathie déchaîne les passions. Effet placebo ou réelle efficacité? Eh bien, doit-on continuer à rembourser ces traitements? En ce mois d'octobre 2014, je vous propose de partir à la découverte de ces petits granules en compagnie des docteurs homéopathes Marie-Lu Caron-Philippon et Sonia Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Mesdames, vous faites partie de l'association 1901 Homéopathie pour tous. Au mois d'avril, vous avez ouvert un centre de santé d'homéopathie. Voulez-vous nous présenter l'association et l'objectif de ce centre?
Alors, l'association est une association qui est née en 2008 pour continuer ce qu'on faisait depuis des années auprès des plus démunis à Montpellier, c'est-à-dire soigner des gens de grande difficulté en privilégiant l'homéopathie comme thérapeutique. Donc on a commencé à la Vitarelle il y a bien longtemps, puis nous avons continué au Resto Bébé des Restos du Cœur et nous y sommes toujours. Et puis maintenant il y a un médecin homéopathe qui va à la Halte Solidarité au milieu de médecins allopathes qui nous ont accueillis, Santé Solidarité au quai du Vernançon. Donc depuis de nombreuses années, on se dit qu'il y aurait peut-être un besoin d'avoir un lieu pour des personnes qui ne vont pas obligatoirement voir les médecins homéopathes et qui ou ne connaissent pas l'homéopathie ou n'y vont pas et se disent ben, pourquoi pas. Donc ce qui fait qu'on est né l'idée de créer un centre de santé. Voilà. Depuis 2008, où on a créé Homéopathie pour tous dans cette optique-là, tout en continuant nos activités humanitaires, eh bien, nous avons essayé de, enfin, nous travaillons depuis 2008 pour monter ce centre qui a enfin ouvert en avril 2014.
Alors, où se trouve ce centre?
Ce centre est à Euromédecine, 740 avenue des Apothicaires, dans un petit immeuble qui s'appelle les Atamantes.
De suite, votre blog qui est très très bien fait.
Alors, notre blog homeopourtous.sup.fr. Oui, c'est un blog qui permet de donner un petit peu toutes les informations du centre déjà, puisque maintenant on va mettre les informations du centre, les conférences que nous faisons, puisque l'association a toujours organisé des conférences de santé familiale et nous continuons à en faire au moins une à trois par an en fonction des années et des intervenants. Tous ces renseignements sont sur le blog homeopourtous.sup.fr.
Est-ce que ces consultations sont gratuites?
Non. C'est un centre de santé, c'est-à-dire que nous sommes centre de santé inscrit au niveau national au centre de santé. Nous avons donc le même fonctionnement avec des consultations qui sont en ce qu'on appelle le secteur 1, dites conventionnées. Donc, excusez-moi, je termine pour le conventionnement. Les gens peuvent venir avec leur carte vitale ou, quand ça ne marche pas, on fait une feuille de soins et la consultation est une consultation conventionnée.
Très bien. Alors nous rentrerons dans le détail du déroulement d'une consultation, etc. J'aimerais que pour démarrer cette émission, eh bien, nous commencions par un historique. Car du principe découvert au 18e, aux granules vendus aujourd'hui en pharmacie, il s'est passé quand même pas mal de choses. Peut-être Sonia Cohen, vous allez nous faire une petite historique?
Oui, avec plaisir. Donc déjà, d'où vient le mot homéopathie? Donc ça vient du mot grec homéos, qui veut dire semblable, et de pathos, qui veut dire souffrance, douleur. Donc en opposition avec allopathie, qui vient du mot grec aloïs, qui veut dire différent, et de pathos, douleur. Voilà, donc ces deux termes en fait ont été créés par Samuel Hahnemann en 1817. Donc l'historique de l'homéopathie, maintenant qu'on a une définition du mot homéopathie. Donc elle vient bien sûr, elle débute avec Samuel Hahnemann, qui est né en 1755 et obtient son diplôme de docteur en médecine à Leipzig. Donc très vite, Samuel Hahnemann est déçu par la médecine de son époque et il préfère se livrer à la traduction d'ouvrages scientifiques. Fils de lettré, outre sa grande culture, il possède aussi une excellente sagacité et il en faut. Donc, il va essayer, avec sa matière médicale, donc de travailler et d'obtenir une définition de l'homéopathie. Donc un jour, alors qu'il travaille à la traduction d'un traité de médecine d'un certain docteur Cullen sur les propriétés toxiques et curatives de l'écorce de quinquina, c'est-à-dire la quinine que l'on prend pour les fièvres de la malaria, il est saisi par le fait que la dite substance produit à des doses toxiques une fièvre qui représente justement la situation qu'elle est censée guérir. Donc en fait, Hahnemann va expérimenter cette drogue sur lui-même, sur ses élèves, et son intuition première n'ira qu'en se confirmant. Donc, il va expérimenter la quinine, et il va bien sûr obtenir d'autres résultats avec d'autres substances. C'est ainsi qu'il est à même de formuler cette règle qui donnera naissance à l'homéopathie. Donc en fait, la définition est la suivante. Toute substance qui produit des symptômes chez une personne bien portante peut guérir ces mêmes symptômes chez une personne malade. Mais cependant, il constate que quand il teste une drogue sur un malade, l'effet toxique de la drogue, même à dose minime, c'est-à-dire à faible dose, persiste sous la forme d'une aggravation néfaste. C'est-à-dire qu'en fait, arrive à ce moment-là l'idée qu'il faut diluer ces médicaments, ces substances. Il utilise alors des quantités de plus en plus infimes, au risque de perdre toute efficacité thérapeutique. Mais c'est là qu'il fait sa deuxième grande découverte, en secouant vigoureusement chaque dilution, ça s'appelle la succussion, la dynamisation, et il obtient un remède de moins en moins toxique, mais de plus en plus puissant. Donc on peut dire que les remèdes homéopathiques sont constitués de substances diluées et dynamisées. Donc en fait, à côté de sa découverte première, l'essentiel de l'œuvre d'Hahnemann est d'avoir compris que l'important n'était pas de soigner des symptômes ni une maladie, mais de soigner un malade. Il ne s'adresse pas à un organe, mais à une personne qui vit dans un certain contexte économique et social, avec un type morphologique, une hérédité, un caractère, un psychisme. Et donc, il affirme qu'il ne peut y avoir de maladie sans perturbation dans le système de régulation. Il en découle une conception énergétique de l'homme qu'il nomme le principe vital. Et en fait, d'après Hahnemann, la maladie est due à la désorganisation de ce principe vital. Donc, le remède homéopathique, pour retourner à la santé, il faut restaurer ce principe vital. Voilà, je pense avoir décrit, résumé l'historique de l'homéopathie. Thank you.
Itinéraire Santé, c'est sur le réseau FM+, donc à découvrir tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h et sur notre site fmplus.org. Aujourd'hui, nous découvrons l'homéopathie en compagnie des docteurs homéopathes Marie-Lu Caron-Philippon et Sonia Cohen. Alors, quels sont les trois grands principes de l'homéopathie ?
Bien, pour, développer un peu ce que disait Sonia tout à l'heure, c'est qu'il y a trois principes. Le principe de similitude, c'est-à-dire l'idée de donner un médicament, je vais peut-être me tromper là, mais l'idée de donner un médicament qui correspond aux symptômes que présente le patient malade, sur le médicament étant...
Dites le mot.
Là, c'est compliqué. Là, je me perds. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est ce que disait Sonia tout à l'heure, c'est que Hahnemann a eu le génie d'utiliser des médicaments dilués pour des symptômes que ce médicament à dose pondérale provoque. La deuxième découverte qu'il a faite, c'est que plus il le diluait et mieux ça marchait, plus c'était, ça avait une vigueur et la dilution devait être doublée d'une dynamisation. Voilà. Donc ce principe de similitude, c'est la base de l'homéopathie avec la dilution et la dynamisation. C'est-à-dire que ça ne peut... C'est, pour quelle raison? Et ça, c'est encore en étude, et je pense qu'on en parlera plus tard. Il se trouve qu'en diluant le produit Princeps, et en le dynamisant, c'est-à-dire en le secouant rapidement, eh bien on arrive à avoir un médicament qui développe toute sa force. Le deuxième principe, c'est un principe de globalité, c'est-à-dire qu'on ne donne pas un médicament pour un symptôme, mais le médicament va être choisi en fonction des différents types de la maladie du patient, c'est-à-dire et d'un patient qui est dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un médicament, par exemple, parce que la personne a mal au ventre, on va prendre un exemple, la douleur abdominale. On va effectivement peut-être penser à des médicaments de douleur abdominale, mais surtout la personne, elle vient avec tout ce qu'elle est et sa douleur abdominale. C'est-à-dire qu'il y a tout un est-ce qu'elle dort bien la nuit, est-ce que cette douleur apparaît la nuit, enfin il y a tout un interrogatoire qui est fait. Parce qu'on va prendre la personne dans sa globalité. Le troisième principe, qui est en lien plus ou moins avec les deux premiers, c'est qu'en fait il y a l'individualisation, c'est-à-dire que le patient, c'est pas bien sûr qu'on va le soigner lui, mais il fait sa maladie, et chaque patient fait sa maladie. C'est-à-dire qu'on ne va pas soigner une maladie, on va pas soigner une angine, mais on va soigner monsieur ou madame ou tel enfant qui arrive avec une angine. Alors bien sûr qu'il y a des symptômes qui peuvent ressembler aux symptômes d'une angine, mais on va pas s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de l'angine. Donc les trois principes, c'est sa similitude avec dilution, dynamisation, mais surtout globalité, individualisation.
Mmh. Alors malgré une certaine popularité, l'efficacité thérapeutique de l'homéopathie est quand même grandement controversée. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Ben, je vais peut-être répondre. Controversé parce que, soi-disant, depuis le début, on nous dit qu'il n'y a rien du tout dans les granules. Mmh. C'est-à-dire que d'après les chimistes et le nombre d'Avogadro, au-delà de la 9e CH, c'est-à-dire au-delà de la 9e centésimale de dilution, il n'y aurait plus de produit Princeps. Mmh. On sait maintenant, avec des études chimiques et physiques, que peut-être ce n'est pas uniquement un problème chimique avec du produit dans l'eau ou dans l'alcool sur lequel on a fait le médicament homéopathique, mais que c'est peut-être un problème justement, et c'est là où intervient la dynamisation, c'est peut-être un problème de modification de la conception du produit qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe, qui ne serait pas de l'ordre de la chimie, mais peut-être plus de l'ordre de la physique, d'ondes, enfin on ne sait pas trop bien effectivement pour le moment, mais il y a des études qui montreraient que peut-être il y a un problème d'ondes.
Ah bon ?
Est-ce que je sais pas si tu...
Oui, des ondes vibratoires effectivement, à travers l'eau.
À travers l'eau, oui, il y aurait que... Ouais.
Alors, l'exercice de l'homéopathie sous le titre d'homéopathe relève de la médecine. Un homéopathe est donc nécessairement un médecin, c'est bien ça ?
C'est-à-dire que
oui ou non.
En France, oui.
En France, oui. C'est une spécialité qui n'est malheureusement pas reconnue par l'ordre des médecins. Mais tout pratiquant d'homéopathie doit être un médecin avant tout. C'est-à-dire qu'on a toute une rigueur médicale qui est obligatoire. On n'est pas juste des prescripteurs de remèdes. On doit, alors bon, on en parlera tout à l'heure, comment se déroule une consultation homéopathique, mais elle se déroule comme toute autre consultation médicale, c'est-à-dire qu'on doit examiner nos patients, qu'on doit les observer, s'il y a des examens complémentaires à faire, bien sûr, on les prescrit, qu'on travaille en réseau avec des spécialistes, bon, qui sont effectivement en accord avec nos démarches, mais ne pas oublier qu'un médecin homéopathe, qu'un homéopathe est un médecin avant tout, bien sûr.
Alors pendant vos études de médecine, il y a un cursus homéopathie ?
Pas du tout, c'est ce que disait Sonia, c'est pas qu'on soit pas reconnu exactement par l'ordre, parce qu'on a le droit de s'installer comme homéopathe, mais à la faculté, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, on est obligé effectivement de faire nos études de médecine, et dans un deuxième temps, faire une école d'homéopathie, en général des écoles privées, parce que ça n'est pas du tout reconnu par la faculté. Il y a certaines facultés en France qui ont mis en place un DU d'homéopathie, mais à Montpellier ça n'existe pas, bon, on ne désespère pas, mais pour le moment c'est pas le cas. Si je peux me permettre, je vais rajouter quelque chose par rapport au fait qu'en France effectivement il faut être médecin, ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Par contre actuellement il y a une communauté de médecins homéopathes qui s'appelle l'ECH, qui est l'European Community of Homeopathy, qui est en train de travailler actuellement sur justement une fédération de toutes les études d'homéopathie en Europe, et de faire en sorte que le diplôme d'homéopathe ne soit fourni qu'à des médecins. Alors c'est en cours, c'est pratiquement fait, sachant qu'il y a puisqu'il faut savoir que dans beaucoup de pays d'Europe, l'homéopathie est prescrite par des non-médecins, et il y a même un pays d'Europe qui est la Norvège, je crois, sans me tromper, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est la Norvège, où les médecins n'ont même pas le droit de prescrire l'homéopathie, donc on est dans l'excès inverse. Donc l'ECH met en place toute une école globale homéopathe, chaque pays ayant bien sûr sa spécificité, de façon à ce que l'homéopathie, qui est une thérapeutique, soit prescrite uniquement par des médecins.
Alors, les remèdes homéopathiques sont en vente libre en pharmacie, sans ordonnance, donc là c'est pratiquement de l'automédication, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, mais est-ce que le doliprane n'est pas de l'automédication? Le paracétamol n'est pas de l'automédication. Est-ce que le fait de prendre du lactéol n'est pas de l'automédication? Enfin, je pense que les gens s'automédiquent. Et que peut-être, à la limite, il vaut mieux s'automédiquer avec de l'homéo que de s'automédiquer avec des produits qu'on gère mal.
Une petite pause musicale sur Réseau FM+.
Auf dem Viertel liegt das Gäbel, liegt gebunden mit der Strick. Euch in Himmel flieht das Vogel, flieht sich, dreht sich in uns Rick. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Hoppertogge ganzen mit der halber Nacht. Donna, Donna, Donna. Donna, donna, do. Donna, donna, donna. Donna, 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 do. Schreit das Kälbl, sagt der Bäuer, Verge heißt dir seiner Kalb. Wolf gekennt doch seiner Vogel, Wolf gekennt doch seiner Schwalb. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Hoppertog ja ganzen mit der halber Nacht. Donna, donna, donna. Donna, donna, do. Donna, donna, donna. Donna, 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 do. B bidne kelbl tut men bin un men schlept sei un men schert wer sot fliegel flitt da roi zu is bei keinem nit kein knecht lacht der wind in korn lacht un lacht un lacht lacht der hobatog ja ganzen mit da halbernacht Donna, 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 do. Donna, 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 do. Donna, 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 do. Donna, 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 do.
Itinéraire Santé, c'est sur le réseau FM+. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie des docteurs homéopathes Marie-Luc Caron-Philippon et Sonia Cohen. Alors pour revenir à ce que vous nous disiez là, avant cette pause musicale, l'homéopathie, c'est quand même 3 ans d'études en plus de votre diplôme de médecin.
Absolument, dans des écoles qui sont des écoles privées, et c'est 3 ans en plus, en effet.
Quelles sont les différentes formes pharmaceutiques ?
Alors en général, les formes pharmaceutiques, c'est surtout les granules. Globalement, ce sont les granules. On peut, dans certains cas, pour des tout petits, faire des préparations qu'on appelle des triturations. C'est une espèce de poudre. Ça évite de faire fondre les granules ou d'écraser les granules. Et puis, il y a la forme aussi alcoolisée, c'est-à-dire sous forme liquide. Et à ce moment-là, on donne des gouttes. Quelquefois, pour les enfants, bien sûr, on demande pas des formes alcoolisées, mais des formes à base d'eau. Mais c'est plus compliqué, ça se garde pas bien. Donc, c'est vrai que chez les enfants, on donne plutôt des triturations.
D'accord. Alors, troubles du sommeil, maux de l'hiver, anxiété. Aujourd'hui, l'homéopathie séduit près de 4 personnes sur 10 quand même. Mais même chez les adeptes de l'homéopathie, les idées reçues ont la vie dure. Alors, je vois tiquer sur le terme adepte.
Oui, c'est-à-dire que le terme adepte m'a fait tiquer parce que là, souvent les gens vous disent « je crois à l'homéopathie ». L'homéopathie, c'est pas une religion. L'homéopathie, c'est une thérapeutique différente de la thérapeutique classique que nous avons nommée tout à l'heure allopathique, mais c'est certainement pas une religion, c'est-à-dire que c'est une manière de voir différente la thérapeutique, et surtout une manière différente de voir la maladie. Sonia, excuse-moi.
Pour compléter le docteur Caron, j'ai beaucoup travaillé avec des vétérinaires homéopathes. Donc quand on nous dit qu'il faut y croire, demander à un chien s'il y croit, difficile, et pourtant ça marche.
Des
très bons médecins vétérinaires, homéopathes. Il en existe peu en France, mais beaucoup en Belgique.
Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais que nous fassions un point sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Par exemple, il ne faut surtout pas toucher les granules.
Je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter parce que y a une imprégnation du granule avec la dilution homéopathique. Donc, a priori, c'est mieux de pas les tripoter. Effectivement, il vaut mieux les mettre directement dans la bouche.
Il ne faut jamais avaler les granules.
Oui, parce que l'absorption se fait par l'intermédiaire de la muqueuse buccale. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas les avaler directement. Vu que si ça passe dans l'estomac, il y a plus beaucoup d'effets.
La menthe est interdite avec le traitement. Style, il ne faut pas se laver les dents avec un dentifrice à la menthe avant, après.
En fait, c'est surtout tous les excitants. Menthe, café, parce que c'est vrai que c'est un petit peu en contradiction peut-être avec la manière d'ingérer le remède. Mais moi, je suis persuadée qu'un remède homéopathique, quand il marche, il marche.
C'est professeur Madeleine Bastide qui a été un grand professeur d'immunologie de la faculté de pharmacie de Montpellier et qui s'est beaucoup investi dans la recherche en homéopathie et qui disait que franchement la menthe, On n'avait jamais prouvé que de... Donc, par précaution, on va dire qu'il vaut mieux éviter de prendre les granules en même temps qu'un bonbon à la menthe, mais c'est tout, quoi. Souvent, je dis aux patients, il vaut mieux mal prendre les granules que pas les prendre du tout, sous prétexte qu'on a mangé un bonbon à la menthe.
Alors, justement, souvent, on dit, bon, 3 fois par jour, etc., il faut-il les prendre à des heures bien précises, essayer de se tenir à des horaires précis ou...
Pareil, effectivement, on préconise loin des repas, mais tout remède homéopathique bien choisi a une action sur la personne, quel que soit le moment de la prise, l'heure. Il n'y a pas d'action pharmacologique comme en allopathie. Alors bon, on préconise souvent en dehors des repas, un quart d'heure après ou un quart d'heure avant.
Voilà, il ne faut pas être strict parce que je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on est trop strict, on dit mince, j'ai oublié le quart d'heure, on ne le prend pas.
Voilà.
Donc il vaut mieux mal, je me répète, il vaut mieux mal de prendre que pas le prendre du tout.
D'accord. Il est déconseillé de passer les tubes en caisse électronique par rapport aux rayons qui pourraient dénaturer les granules.
Ça, je l'ai découvert en... Je ne savais pas. Je ne sais pas ça. Je n'ai pas de réponse.
Très bien. Écoutez, l'émission se termine. Rendez-vous pour la deuxième et dernière partie consacrée à l'homéopathie, mercredi 15 octobre à 9h sur le réseau FM+, toujours le 103.1 à Nîmes et le 91 FM à Montpellier. Je vous rappelle qu'Itinéraire Santé a lieu tous les premiers et troisièmes mercredis de mois et que vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur fmplus.org. On termine avec les petites informations pratiques. Le centre de santé d'homéopathie est ouvert le lundi et le mercredi toute la journée. Pour les prises de rendez-vous, c'est tous les jours sur le 09 72 46 40 76. Le centre se situe aux Atamantes numéro 6 au 740 avenue Les Apothicaires à Montpellier 34 090 et je vous invite à découvrir le super blog du centre http bien sûr pour homeopourtous.sup.fr.
C'est un raccourci.
D'accord.
Excusez-moi, c'est un raccourci.
Très bien. Donc, docteur Marie-Luc Aron, Philippon et Sonia Coel, un grand, grand merci. Et rendez-vous à très, très bientôt.
Merci.
Au revoir. Merci à Stéphane qui est à la technique.